Merci d'écouter RFI. Il est 20h en temps universel, 2h de plus ici à Paris.
Simon Bourtembourg.
Et à la une de cette édition, la fête qui bat son plein à Marseille. La flamme olympique est arrivée ce soir dans la cité phocéenne. Au son des feux d'artifice et sous un ciel bleu, blanc, rouge, le Belém a accosté dans le Vieux-Port. Dans l'actualité, également les inquiétudes internationales autour de Rafah. Israël a mené des raids aériens dans cette ville stratégique à la lisière sud de la bande de Gaza. Des négociations de paix ont tout de même repris aujourd'hui entre représentants d'Israël et du Hamas. Et puis, nous le verrons, les catastrophes climatiques n'ont jamais été aussi nombreuses en Amérique latine. 2023 marque un record, pointe aujourd'hui l'Organisation mondiale de la météorologie. Illustration à suivre au Venezuela, où le glacier Corona n'est plus qu'un simple champ de glace. La flamme olympique est donc en France pour illuminer le monde. 100 ans après, il règne plus que jamais un parfum olympique en France, et tout particulièrement à Marseille, évidemment, où le Belém est arrivé sur les coups de 19h30. Avec la flamme olympique à son bord, le mythique trois-mâts a paradé toute l'après-midi au large de la cité phocéenne. Plus de 100 000 Marseillais s'étaient réunis aux abords du Vieux-Port. Et sous tout le monde attendait Zinedine Zidane, c'est finalement le rappeur Jules qui a allumé le show de la flamme olympique. Et demain, c'est d'autres stars marseillaises qui vont se passer de main en main la torche olympique. Les footballeurs français Basile Boli et Jean-Pierre Papin font partie des relayeurs. Et c'est Didier Drogba qui conclura le voyage marseillais de la flamme olympique au stade Vélodrome. L'ancien joueur de l'OM et international ivoirien nous a fait part de son émotion.
Ouais, la flamme est arrivée à Marseille. Ça fait plusieurs semaines qu'on attendait ça. Et de voir cette effervescence autour de l'arrivée du bateau, du Belém, c'est quelque chose d'extraordinaire, que la France accueille à nouveau ces Jeux Olympiques. Vous voyez la ferveur de ce peuple marseillais. Je pense que on ne pouvait pas choisir meilleure ville pour recevoir cette flamme et lancer vraiment les Olympiades.
J'ai une toute dernière question. Vous allez la porter, vous, demain, la flamme?
Oui.
Votre sentiment là aussi?
C'est un honneur. J'ai eu l'opportunité de le faire déjà pour les JO de Londres en 2012. Et me retrouver ici à Marseille, dans la ville du club où j'ai fait les plus beaux exploits quasiment de ma carrière, c'est énorme. C'est une belle reconnaissance, une belle récompense. Et je tiens à remercier Tony Estanguet pour... d'avoir pensé à moi et de me permettre de vivre ça ici à Marseille, chez moi.
À Didier Drogba au micro de Baptiste Coulon, envoyé spécial de RFI à Marseille. Et après cette première étape marseillaise, donc, la flamme passera par plus de 450 villes en France avant l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris le 26 juillet prochain. Dorian Kelletala y sera. Il est membre de l'équipe olympique des réfugiés. Il sera aligné sur le 100 mètres à Paris, et pour lui, les Jeux Olympiques commencent dès maintenant.
C'est un nouveau compte à rebours, c'est extraordinaire de voir ces images à Marseille. La flamme représente l'olympisme, donc pour moi, voir ces images, c'est tout à fait extraordinaire, et vivre ce moment présent ici en France, c'est exceptionnel. J'espère que cet engouement-là qu'il y a sur la ville de Marseille, j'espère qu'on va le garder jusqu'à ici à Paris. Cet engouement populaire nous donne plus de motivation, et pour moi en tant qu'athlète, courir au Stade de France avec 60 000 personnes, ça me motive énormément. Donc, quand je vois ce genre d'image, ça me motive vraiment beaucoup.
Dorian Kelletala, il était l'invité d'Alexis Guilleux dans une édition d'RFI Soir consacrée à l'arrivée de la flamme olympique en France. À l'actualité africaine, en bref, d'abord au Kenya, où le gouvernement annonce un accord avec les médecins hospitaliers. À la fin d'une grève nationale qui a duré 8 semaines, les médecins grévistes contestaient notamment une décision du gouvernement visant à réduire les salaires des internes et à repousser l'âge d'ouverture des droits à la retraite. Le contenu exact de l'accord n'était pas connu dans l'immédiat. Je vous le disais en titre, les négociations ont repris en fin de matinée entre représentants d'Israël et du Hamas. Des discussions dans un climat toujours plus tendu après les raids israéliens sur la ville de Rafah ce mercredi. Des opérations ciblées se défend l'État hébreu, alors que les réactions internationales sont vives suite justement à l'intensification des opérations israéliennes dans cette ville surpeuplée au sud de la bande de Gaza. On a appris cette nuit que les États-Unis avaient choisi de suspendre la livraison d'une cargaison de bombes à Israël d'Israël craignant une offensive terrestre sur Rafah. Ce blocage d'armes est une première, il est inédit, alors qu'en Égypte également la tension est montée d'un cran depuis hier. En cause, l'arrivée des blindés israéliens dans une zone qu'on appelle le corridor de Philadelphie, une zone qui longe la frontière égyptienne en territoire gazaoui. Précision au Caire avec Alexandre Bouchanti.
L'accord sur le corridor de Philadelphie a été conclu en 2005 suite au retrait israélien unilatéral de la bande de Gaza. En vertu du traité de paix, la zone démilitarisée qui longeait la frontière du côté occupé par Israël a fait l'objet d'un accord. Le côté égyptien du corridor était confié à 750 gardes frontières dépêchés par le Caire. Le côté palestinien était contrôlé par l'autorité palestinienne. Depuis 2007 et la prise du pouvoir du Hamas à Gaza, l'Égypte patrouillait seule le corridor. En décembre 2023, Israël a annoncé vouloir prendre le contrôle du côté palestinien du corridor pour empêcher la contrebande d'armes vers le Hamas à partir de l'Égypte. Le Caire avait formellement refusé. Selon des sources proches des services de renseignement, l'Égypte, suite à l'arrivée de blindés dans le corridor, a averti Israël de la gravité de l'escalade à la frontière et a indiqué que tous les scénarios étaient sur la table, sans donner plus de précision. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Et ce soir, Israël annonce qu'un point de passage vers Gaza a été visé par des roquettes après sa réouverture. Par ailleurs, dans l'enclave palestinienne, la situation humanitaire continue d'inquiéter. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il ne reste que 3 jours de carburant aux hôpitaux du sud de Gaza. Les avoirs de la Russie gelés dans l'Union européenne vont bel et bien être mis à profit pour soutenir la défense militaire et la reconstruction de l'Ukraine. Les bénéfices de cet argent bloqué permettraient donc d'armer Kiev. Les 27 sont en effet tombés sur un accord de principe. Il ne pouvait pas y avoir de symbole plus puissant, a salué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Par ailleurs, les députés ukrainiens ont adopté aujourd'hui, mercredi après-midi, un texte permettant la mobilisation de détenus dans l'armée. Toujours en Europe, le président chinois Xi Jinping est arrivé en Hongrie. Il s'agit donc de la dernière étape de sa tournée européenne. Le dirigeant doit dîner ce soir avec le premier ministre nationaliste Viktor Orban. Il s'agit d'une nouvelle illustration du rapprochement entre la Chine et la Hongrie ces dernières années. En Amérique latine maintenant, l'année 2023 signe donc un triste record en matière de catastrophes climatiques. L'Organisation météorologique mondiale a répertorié tous les épisodes de sécheresse, d'incendies et d'inondations qui ont frappé l'Amérique latine l'année dernière. Élévation du niveau de la mer et record de température, le sous-continent est victime directe du changement climatique. Et l'une des illustrations les plus spectaculaires du réchauffement climatique, c'est la fonte des glaciers. Le Venezuela, d'ailleurs, vient de voir disparaître son tout dernier glacier, le glacier Corona, qui n'est plus considéré comme tel, mais comme un simple champ de glace en raison de sa superficie qui se réduit davantage chaque année. Les explications signées Simon Rosé.
Des 5 aigles blancs, les 5 glaciers des Andes vénézuéliennes, il ne reste rien ou si peu. Il y a un siècle, ils couvraient 1000 hectares, aujourd'hui 4 hectares seulement. Parmi eux, le Corona représente la moitié de cette superficie. Sans perspective d'amélioration, c'est trop peu. À son tour, il ne peut plus être considéré comme un glacier. Officiellement, donc, le Venezuela n'en possède plus. Si c'est le premier pays dans cette situation, la dégradation des glaciers touche tous les continents. Le Mexique, la Slovénie et l'Indonésie suivent en effet sur la liste. À l'échelle mondiale, les glaciers d'un tiers des sites protégés par l'UNESCO disparaîtront d'ici 2050. Ce n'est pas sans conséquence. De nombreuses rivières dépendent de leur eau de fonte. Celles-ci forment également des lacs d'altitude. Ils peuvent déborder, voire rompre. 15 millions de personnes sont directement menacées. La fonte des glaciers participe également de la montée des océans. Et enfin, il y a la valeur culturelle. C'est notamment le cas au Venezuela. Les 5 aigles blancs faisaient partie du patrimoine de la région. C'est désormais du passé.
À Simon Rosé, chef du service environnement. Et pour refermer ce journal, un mot de football et de Ligue des Champions, puisqu'on connaîtra ce soir l'affiche de la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Qui pourra donc affronter le Borussia Dortmund? Le Real Madrid s'oppose en ce moment au Bayern Munich en demi-finale retour. Nous en sommes à la 50e minute de jeu, toujours 0-0. Nous suivons évidemment cette rencontre dans nos différentes éditions. RFI, il est 22h, bientôt passé de 10 minutes ici à Paris. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.